Bonjour, je m'appelle Jenna. Merci d'écouter Nova Trans. Ce podcast fait partie du collectif Nouvelles Radios Euphoriques. Vous pourrez en apprendre plus sur le site nre.fm. Holy Days. Ça ressemble à un pseudonyme. Ça ressemble même peut-être à un nom d'actrice porno. Et vous n'auriez pas tort. Holly a la force enviable de vivre sa vie comme elle l'entend. Une transition vraiment tardive lui a donné le goût de ne plus perdre de temps et de vivre à fond. Arrêter de travailler, se consacrer à la découverte et au militantisme, toujours nécessaire pour exister dans la minorité de la minorité. J'ai eu la chance de croiser Holly pendant mes vacances en Bretagne et je suis heureuse de vous la présenter. Cet entretien a été enregistré avec les moyens du bord et en plein air. Vous pourrez aisément imaginer le soleil, le vent de l'Atlantique, parfois la fermeture éclair d'une tente à proximité. Et même si vous tendez l'oreille, la clochette du petit chat qui suit littéralement Alice partout. J'en profite pour me vanter et saluer Alice qui m'a reconnue par ma voix alors que j'étais incognito dans ce camp de vacances et qui était embarrassée de me poser la question pour vérifier si j'étais bien moi. Je tiens à la rassurer, je suis bien trop flattée pour être embarrassée. J'espère que vous profitez bien de cet été. Et bonne écoute. Bonjour Holly.
Bonjour Jenna.
Comment est-ce que tu te présenterais en quelques mots?
Alors...
À quelqu'un qui ne te voit pas.
Ah, quelqu'un qui ne me voit pas. J'ai récemment... Tout au long de ma vie, j'avais très régulièrement changé la manière dont je me définissais, passant à une époque de femme trans-lesbienne à aujourd'hui personne trans-non-binaire sans orientation sexuelle définie. Et récemment, j'ai même écrit à mes amis, je me représente à vous aujourd'hui, je m'appelle Holly, pronom je.
Ouais.
Et pour les pronoms que vous emploierez pour moi, ce n'est plus de moi qu'il s'agit, mais de vous.
D'accord.
Donc c'est là que j'en suis un peu, de comment je pourrais me présenter.
Est-ce que ça te permet de faire une sorte de sondage pour voir comment les gens te perçoivent?
Non, je dirais pas ça. Parce que cette phrase, je l'ai prononcée en fait pour un peu dire à mes amis où j'en étais... de mon rapport au genre, en fait.
Ouais.
Je crois que quand tu m'as posé la question, tu me disais comment tu te présenterais à quelqu'un qui te connaît pas ou même qui te voit pas.
Ouais.
Je suis pas sûr que j'aurais dit tout ça, en fait.
Ouais.
En fait, je pense que je ne dirais rien.
Oh, ok.
De particulier.
Ouais. D'accord. Quand est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois?
Alors, je pense que j'avais environ 20 ans, je ne me situe plus à quelques années près, en regardant une émission sur la transition d'une femme trans, émission qui traitait la transidentité voilà, d'une manière pas très agréable à l'époque. Et c'est assez bizarre parce qu'à la fois, j'arrivais pas du tout à m'identifier à la personne que je voyais, et à la fois, est passée cette phrase dans ma tête, un jour je ferai ça.
Ouais. C'était il y a combien de temps?
Donc il y a plus de 30 ans.
D'accord. Et comment est-ce que tu as décidé le un jour je ferai ça? À quel moment?
Alors, en fait, cette idée de un jour je ferai ça, dont je me souviens, au moment où je vois cette émission, donc à 18-20 ans, c'est une idée qui est revenue régulièrement dans mon esprit tout au long de ma vie et que je réenfouissais immédiatement parce que ça me paraissait impossible.
Oui.
Et j'avais suffisamment d'autres choses à faire dans ma vie, ma famille, mes enfants, mon boulot, mes autres passions, enfin, ou mes passions en général. Que j'ai réussi à enfouir ça très longtemps jusqu'à ce que je n'y arrive plus.
D'accord. Et c'était il y a longtemps?
C'était en 2015 que j'ai annoncé pour la première fois à ma compagne c'est la première personne à qui je l'ai dit, que je pensais que j'étais une femme trans. Et les 10 années qui ont précédé, c'est 10 années de descente aux enfers dans une dépression qui m'a amené à en fait être confronté à cette idée que soit je mourais, soit je le faisais.
Ouais. Tu l'as fait parce que c'était indispensable, voilà. C'était vital.
C'est ça.
T'as parlé de ta compagne en premier, ça s'est bien passé ?
Non, nous nous sommes séparés.
D'accord.
Lors de l'annonce, lors de mon coming out, la minute d'après.
Wow, ok. D'accord. Et le reste de ton entourage ?
Mes enfants l'ont très bien pris. Mm-hmm. J'ai été surprise. J'ai 3 enfants. 2 enfants qui avaient 18 et 25 ans environ et qui m'ont dit « Nous, papa, on t'aime, tu fais ce que tu veux, l'important, voilà. C'est que tu sois heureux », ont-ils dit à l'époque encore, je pense.
Ouais.
Et une 3e enfant qui avait 8 ans et qui a pris ça tout naturellement.
Ouais.
Je me souviens qu'elle me disait « Ah, c'est super, je vais pouvoir t'apprendre à te maquiller. »
Oh.
Oui.
Trop chou. Et comment tes enfants t'appellent maintenant ?
Alors, mon enfant le plus grand m'appelle papa. Mon second enfant m'appelle Holly.
Ouais.
Et mon 3e enfant m'appelle ou papa ou babam.
Ok.
Voilà.
Très bien. Comment est-ce que tu as choisi, organisé, vécu les différentes transitions possibles, administratives, sociales, médicales ?
Alors, j'ai commencé par ce que j'appellerais ma transition sociale. Enfin, alors oui, j'ai commencé par ça, mais elle s'est étalée dans la durée à mes différents réseaux. Donc, d'abord, mon ancienne compagne, mes enfants, mes amis proches, ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes sœurs et tout le reste de la famille. Puis en tout dernier, mon travail.
Ouais.
Donc, et ce s'est étalé sur 1 an et demi à peu près. Après ma transition médicale, j'ai commencé à prendre des hormones un peu plus d'un an après mon premier coming out auprès de mon ex-compagne. Et j'ai finalement décidé de ne prendre que des hormones. En termes de transition médicale, d'ailleurs, j'avais l'intention de ne rien faire d'autre que de dire je suis une femme trans et de m'habiller de manière féminine.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est sentant la non-validation de la société en général que m'est venue l'envie de prendre des hormones et même l'envie de faire à l'époque une vaginoplastie ou une vulvoplastie. En fait, je m'orientais plutôt vers une vulvoplastie.
Ouais.
Et en fait, j'ai décidé pour différentes raisons de ne pas la faire, notamment parce que je pensais que ça allait annuler ma sexualité, la supprimer, l'empêcher. Que je n'avais pas eu de dysphorie de mon corps avant, en fait, de constater la non-validation de la société sur mon ressenti.
Ouais.
Et que du coup, j'ai décidé, en fait, de me battre contre cette dysphorie qui était apparue à ce moment-là. C'est-à-dire de combattre mon propre cerveau qui avait généré ça par le regard des autres. Pour en sortir, ce qui a mis plusieurs années, parce que très longtemps, j'avais besoin d'imaginer que j'avais une vulve pour me donner du plaisir en me caressant.
D'accord. Et c'est plus le cas ?
Ce n'est plus le cas.
Ok. Donc si je, pour reformuler un peu, c'est la pression sociale qui t'a créé une sorte de dysphorie. Oui. Est-ce que tu dirais que maintenant, tu te l'es appropriée? La raison pour laquelle tu prends des hormones, c'est une raison aussi personnelle, pas seulement la pression sociale?
Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que ce qui m'a poussé à prendre des hormones, dans un premier temps, c'est bien la pression sociale.
Ouais.
Mais une fois que j'avais commencé à prendre des hormones, ce qu'ont provoqué les hormones sur mon corps m'a plu.
Ouais.
Et du coup, je suis ravi de continuer depuis plusieurs années maintenant à prendre des hormones.
Ok. Est-ce que ton orientation sexuelle a changé avec la transition?
Alors, dans un premier temps, non.
Ouais.
C'est-à-dire que avant ma transition, je me pensais attiré que par les femmes. Donc, je me suis pensé lesbienne une fois que j'ai démarré ma transition. Et en fait, la question du corps notamment, et moi, ce que j'ai vécu avec mon propre corps et le rejet, puis la réacceptation de mon pénis. Et le fait de côtoyer des personnes trans, mecs trans, meufs trans, et de savoir la multiplicité des corps et des appareils génitaux qui pouvaient exister sur ces corps, j'ai commencé à me détacher. En fait, il y a aussi le fait que j'ai déconstruit le genre. Donc, comme le genre pour moi a un lien direct avec l'orientation sexuelle, une fois qu'on a déconstruit le genre dans sa tête, l'orientation sexuelle, elle saute avec, enfin voilà. Ça, ouais. En fait, c'est un ensemble de processus. Hein. Mm. La question du corps, de ma connaissance de tout ce qui peut se passer dans des transitions, la déconstruction du genre m'ont amené aujourd'hui à être pansexuel, on peut dire, ou sans orientation sexuelle.
Ok. Mais, avec une sexualité, avec du désir.
Oui.
Donc plutôt pan que sans.
Oui, ouais. Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. J'ai du désir et l'envie de faire de la sexualité seule ou avec d'autres personnes.
Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté personnelle?
C'est d'être fier d'être une personne trans, parce qu'en fait au début de ma transition j'avais très très envie d'avoir un cis-passing, c'est-à-dire d'avoir aux yeux des autres un passing de meuf sans qu'ils sachent que je suis une personne trans. Et il se trouve que les hormones agissent différemment sur les corps selon l'âge auquel on les démarre, et puis selon les quantités, je prenais assez peu d'hormones au début. Et donc, en fait, j'avais du mal à avoir un cis-passing si je n'utilisais pas des artifices comme perruque, maquillage, vêtements très féminins, etc. Et j'ai très vite remarqué que tous ces stéréotypes dits féminins dans la manière de paraître, c'est des choses que j'ai pas apprécié. J'ai pas aimé me maquiller, j'ai pas aimé porter de perruque, j'ai pas aimé porter de talons. Très vite, je n'ai plus aimé. J'ai voulu m'enlever toutes ces contraintes. J'ai aussi déconstruit le genre en même temps. Je me suis même à un moment posé la question, mais pourquoi faire une transition si le genre est une construction culturelle, comme j'en suis persuadé aujourd'hui, est une norme. Et du coup, c'était quoi la question au départ?
C'était ta fierté personnelle.
Ah oui.
Et le fait d'être
voilà, trans. Voilà. Et en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, non, je suis fier d'être trans, j'ai envie d'assumer ça. Le fait que j'avais un passing trans m'a plu.
Ouais.
Et j'ai voulu le revendiquer, en fait. J'ai aussi senti que moi, j'avais pas une modèle et qu'on voyait très, très peu de personnes trans dans la ville.
Ouais.
Et moi, ça m'a... Voilà, j'avais envie d'être visible. J'ai aussi beaucoup souffert de l'impression du manque de désir envers moi des personnes de ma génération. J'ai une cinquantaine d'années. Et j'explique ce manque de désir que moi, je ressens, en tout cas, lié à la construction du désir.
Ouais.
Et donc, je me suis dit que plus sur être personne transvisible, plus on pourrait être dans...
Habituer les gens, voilà. Et donc éventuellement être un peu désiré aussi.
C'est cela.
Okay. J'aime bien que quand tu parles de ton apparence, tu parles d'un passing trans qui sonne positif plutôt que l'absence de passing cis. Mmh. Et que tu sois perçu comme une personne trans, c'est pas une défaite.
Oui.
J'aime bien ça.
Mais écoute, moi aussi, ça me plaît beaucoup, en fait. Et alors, juste pour revenir aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des personnes trans, moi, ça me fait beaucoup rire quand, dans le monde cis, on ne sache pas du tout dans quel sens je transitionne à leurs yeux, parce que j'emploierai plus ce terme aujourd'hui, même si je peux l'employer. Mais ouais. Voilà, j'aime créer ce trouble chez les personnes...
Super. Est-ce que tu te considères militante?
Oui. Ouais. Donc déjà d'avoir une visibilité trans, un passing trans, et de me promener dans la rue. C'est mon premier acte militant de tous les jours.
Ouais.
Et sinon, je suis militante à plein d'endroits. Je me considère aujourd'hui... j'ai militant dans le sens, j'ai envie de remettre en cause toutes les normes. Toutes les normes, en tout cas, qui font du mal, je veux dire, globalement comme ça. Oui. Particulièrement celles qui me font du mal à moi.
Oui.
Parce que quand on se rend compte de ces normes qui existent, on prend le genre comme exemple, mais en fait l'ensemble de la culture est rempli de normes. Je pense au salariat, la famille, etc. Et moi, du coup, j'ai envie de toutes les normes qui font que je vis moins bien que je ne le devrais, cette phrase n'est pas de moi. J'ai envie de les remettre en cause et d'essayer de trouver des manières d'être ou d'agir ou de fonctionner qui respectent pas la norme, mais me respectent moi.
Ouais. Tu sais de qui c'est cette phrase?
J'ai oublié.
D'accord. T'as un parcours militant associatif aussi?
Dans des collectifs,
ouais.
Plus que dans des assos, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été bénévole dans une bibliothèque associative féministe qui s'appelle Les Dévoreuses. J'ai fait partie d'un collectif qui a organisé des festivals transpédéguines militants à une époque. Je fais partie d'un collectif qui squatte des lieux pour en faire des lieux d'autogestion.
Ouais.
Par exemple, actuellement, on a un lieu qu'on souhaite être une maison de quartier autogérée par les personnes qui utilisent ce lieu comme lieu d'activité et d'échange social et de récupération de nourriture et d'objets où tout est basé sur l'échange et le troc et la gratuité.
Tout en gardant en tête la sécurité du lieu et la tienne et tout. C'est dans quel coin?
Je suis dans le coin de Nantes, donc à Rezé exactement. Moi j'ai pas l'impression de me mettre en danger.
Ouais.
Les personnes qui ouvrent les squats, c'est pas moi.
Ouais.
Je fais partie du collectif qui utilise les lieux après.
Ouais.
En l'occurrence, là, c'est un lieu qui appartient à la mairie.
D'accord. Voilà. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté militante?
On peut parler d'un collectif qu'on a créé avec trois autres personnes, puis une cinquième personne nous a rejoint, qui s'appelle le collectif Festin. Ça s'écrit F-E-2-S apostrophe T-I-N. C'est un collectif qui fait du cinéma post-porno.
Ouais.
Pour nous, le post-porno, pour le dire très rapidement et simplement, c'est faire du cinéma porno autrement. Donc c'est la manière de le faire qu'on veut différente et le résultat à l'écran aussi qu'on veut différent du porno dit mainstream. Donc une fois que j'ai dit ça, ça peut être beaucoup de choses, mais voilà, en tout cas, on a envie de montrer d'autres imaginaires à l'écran et aussi d'autres manières de fabriquer. On veut que faire un film porno, ce soit une expérience enrichissante, exploratrice, qui aborde des thèmes importants pour nous dans la sexualité, comme le consentement ou sortir des scripts habituels, s'autoriser à explorer, connaître son corps, communiquer, etc., etc. C'est non exhaustif.
Oui. Je crois avoir entendu que vous aviez aussi une visée qui n'était pas masturbatoire.
Oui, c'est-à-dire que très souvent, nos films contiennent du fond qui est soit parlé, soit qui transparaît à l'écran dans les images qu'on voit et les interactions sexuelles qu'il y a entre les personnes à l'écran. Effectivement, tous nos films, d'ailleurs la plupart de nos films, ne sont pas qu'à visée masturbatoire ou pas du tout.
Ouais.
Même si certains de nos films, même qui ont un aspect documentaire, on nous renvoie quelquefois que les images explicites de sexualité ont réveillé
quelque chose.
Voilà, quelque
D'accord.
chose.
Et ça, c'est bonus.
Oui.
Ouais.
Oui.
Est-ce que si la visée n'est pas masturbatoire, la visée est plutôt éducative, militante même, sur les éléments que vous avez cités?
Oui, oui. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui nous rejoint au sein du collectif Festin, c'est l'idée que la sexualité est vraiment un gros souci dans notre société pour plein de raisons, dont la norme cis-hétéro-patriarcale en fait partie, mais aussi le fait que la sexualité soit un tabou.
Ouais.
Voilà, et donc soit très peu apprise, transmise. Il y a très peu d'éducation autour de ça. Il y a du non-dit, il y a cette idée de c'est la vie privée, c'est intime, donc on n'en parle pas. Et justement, c'est ça aussi qui permet de poser des secrets, enfin voilà, et créer toutes sortes de problèmes potentiels. Et nous, on se dit que si la sexualité était une activité comme une autre, qu'on en parle dès le plus jeune âge, qu'on apprenne le consentement dans toutes ses dimensions, parce que le consentement, c'est dans la sexualité, mais c'est dans tous les domaines de la vie, tout ça participerait certainement à ce que la sexualité cause moins de douleur. Chez les personnes en général et particulièrement chez les personnes assignées meufs ou chez les personnes trans ou chez les enfants, etc.
Ouais. Ça m'a frappé dans le point, la seule œuvre de Festin que j'ai vue pour l'instant, c'est à la fois le fait d'être à visage découvert et sans jouer un rôle. À ce titre, c'est vraiment du documentaire, je pense. Et finalement, l'extrême intimité à laquelle on participe quand on regarde l'œuvre.
Oui.
C'était beaucoup plus... Pas gênant ou intrusif, parce que c'est connoté négatif, mais qui avait cette impression d'accéder à une intimité à laquelle on n'a pas accès d'habitude.
Oui. Oui, et c'est quelque chose... je parle beaucoup, moi, de mon intimité. Les personnes avec qui j'ai des discussions, des relations autour de moi sont dans la même dynamique. D'ailleurs, en fait, on s'encourage. J'ai remarqué que quand on avait la générosité de partager son intimité très naturellement, très souvent, en face, il se passe la même chose. Comme nous, au sein du collectif, pour fabriquer nos films, on a énormément échanger, discuter, parler de nous à des endroits très profonds, et c'est aussi cette générosité qu'on s'est offert à nous-mêmes entre nous. C'est quelque chose finalement qu'on offre aussi à travers nos films, je crois, aux personnes qui ont l'occasion de regarder nos films et éventuellement de discuter avec nous si on est présente lors d'une projection.
Ce collectif que vous avez créé, qui est donc comme des amis très proches, je suppose, une sorte de polycule ouvert au public, enfin en tout cas visible par le public. Est-ce que ça a réparé un peu ce dont tu parlais sur le manque de désir pour les personnes de ta génération?
Non, ça ne l'a pas réparé. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Oui.
De faire ça, ça m'a transformé.
Oui.
Mais ça n'a pas réparé cette douleur-là. C'est pas ça qui l'a réparé.
Ok.
Voilà, c'est autre chose. Je peux t'en parler
bien
si
sûr.
Tu veux. Encore récemment, j'écrivais que j'avais cette croyance que je considérais que je ne peux pas être aimé complètement pour tout ce que je suis,
mm-hmm.
tant qu'une personne ne me désirera pas sexuellement et fera du sexe avec moi pour cette raison du désir pour moi, de l'élan pour moi.
Ouais.
J'ai rencontré une personne qui a eu ce désir pour moi, mm-hmm. et qui est une personne à sexe,
mm-hmm.
et qui donc m'a dit son désir pour moi et m'a dit mais je ne pourrais en partage de corps que t'offrir de la tendresse.
Ouais.
Donc c'est une personne avec qui j'ai partagé de la tendresse,
mm-hmm.
avec qui j'ai dormi par exemple. Et en fait, ça a réparé cette douleur.
Ouais.
En fait, je me suis senti totalement aimé par cette personne, juste à l'entendre, à entendre son élan et son désir pour moi, parce que c'est un terme que cette personne emploie.
Ouais.
Voilà, et je me suis rendu compte que la tendresse, du coup, était effectivement un besoin qui me faisait beaucoup de bien,
ouais.
et que le sexe n'était pas véritablement un besoin, en fait, à cet endroit-là,
ouais.
et ça a soigné ma douleur. Oui.
Très bien, c'est très joli.
Oui.
J'ai encore une question sur le militantisme, mais tu as tellement bien fait ce lien vers une partie... self-care, réseau de soutien, etc. Comment tu décrirais ton réseau de soutien actuellement, si tu en as un, bien sûr, mais
oui.
voilà, amis, famille, asso, oui. etc.
Alors, je me sens extrêmement soutenu par tous mes réseaux, donc par mes parents qui me soutiennent dans mes projets, même qu'ils ne comprennent pas.
Mmh.
Par exemple, je vais m'arrêter de travailler et c'est pas simple à recevoir pour eux.
Ouais.
Et ils me soutiennent en me disant bah, fais ce qui est bien pour toi,
mmh.
et même financièrement.
Okay.
Mes amis proches qui vivent autour de moi, avec moi, on a un projet d'habitat collectif ensemble. Et avec ce collectif-là, je l'appelle un collectif aussi, je me sens extrêmement en sécurité vis-à-vis de ce que je considère être mes besoins vitaux aujourd'hui, d'avoir un endroit au chaud pour dormir, à manger, et des personnes avec qui vivre, parler, mm-hmm. relationner. Et on est une petite équipe qui avons... des compétences diverses qui me donnent une entière confiance en l'avenir, même en étant hors de la norme du travail.
Mm-hmm.
Et après, j'ai un réseau la communauté queer,
mm-hmm.
Le réseau, le collectif Festin et le réseau Sex Positif, parce que mm-hmm. Je participe à des événements dits sexe positif en mixité choisie queer,
mm-hmm.
et tous ces réseaux là me portent, me transforment, me font du bien, me donnent confiance en fait que je vais supporter la vie voilà.
Ouais.
Peut-être jusqu'au bout de la mienne, pour sans l'interrompre.
Cet optimisme, c'est agréable.
Oui.
En parlant de milieu sexpo, est-ce que tu nous décrirais l'endroit où on est actuellement?
Là, on est assises toutes les deux sur un banc, dans un beau jardin, entouré de tentes, et d'une maison. On est dans un queer summer camp, mm-hmm. invité par des amis. Mm-hmm. Jenna, on s'est rencontrés vraiment
dans le camp,
dans ouais. ce camp-là, et c'est à l'occasion de ce camp-là qu'on a décidé de faire ce petit échange mm-hmm. ensemble. Voilà.
Comment est-ce que tu prends soin de toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir?
En travaillant le consentement dans la sexualité, ça m'a amené à travailler le consentement, évidemment, comme tout le monde. Enfin, tout le monde qui prend en compte la question du consentement se rend vite compte que c'est dans l'ensemble des gestes quotidiens de la vie, de toutes les interactions que ça se passe.
Ouais.
Et c'est de savoir quels sont mes besoins, mes désirs, de savoir les exprimer, de savoir dire non ou dire oui pour faire plaisir, mais parce que je le décide et consciemment. Enfin voilà, c'est tout ça mm-hmm. qui aujourd'hui, c'est hyper important pour mon bien-être, en fait.
Ouais.
Et puis de respecter aussi mon rythme physique, de dormir assez, de ne pas aller au-delà de mes forces, enfin, tout ça.
Mm-hmm.
Tout ça, ça participe vraiment à mon bien-être psychologique et physique.
Oui. Mm. Est-ce que tu te décris heureuse, fière, fatiguée, sereine?
Alors, je me décris
autre chose.
Fière, oui.
Ouais.
Heureuse de temps en temps.
Uh-huh.
Malheureuse de temps en temps.
Okay.
En colère, assez régulièrement.
D'accord.
Sereine,
ça
plus
arrive.
Ou moins. C'est très variable et en fait j'aime le fait que ce soit changeant parce que c'est la vie qui est comme ça. Aujourd'hui ce qui est chouette, c'est que quand je suis en colère ou quand je suis déprimée ou quand je suis triste ou quand je suis joyeuse, en fait je sais que ça va pas durer et que c'est un mouvement incessant et que oui, par contre j'ai un objectif, c'est de plus en plus d'arriver à ce que les moments, les émotions qui me portent et qui sont plutôt du côté du heureux bonheur soient suffisamment fréquentes et durent suffisamment de temps pour que voilà, ma vie me paraisse plus légère qu'à une époque.
Ouais. Mmh. Concrètement, à un moment où tu te sens malheureuse ou en colère, tu fais quoi pour...
Je peux...
Changer la vague.
Alors, des fois, j'y arrive pas
ouais.
à changer la vague, c'est-à-dire que je me force ou... Enfin, j'essaye de voir les choses autrement. Et puis, des fois, voilà, je réfléchis à comment changer de point de vue. Et des fois, j'y arrive en une seconde, quoi. Et c'est incroyable comme je peux avoir l'impression... d'être vraiment dans une voilà très mal
mm-hmm.
et que en deux minutes parce que j'ai eu la bonne pensée
ouais.
je change l'angle de vue et je vais tout d'un coup
ouais.
potentiellement bien ou très bien malheureusement l'inverse peut aussi arriver.
D'accord. Et c'est quoi ce tour de magie est-ce que tu communiques ce genre de pouvoir?
Alors je sais pas, peut-être des exemples me viennent pas. Si, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Si, par exemple, récemment, je me rendais compte que dans le cadre d'une relation, on va dire sentimentale, j'étais à un endroit qui faisait pas du bien à la personne... en face de moi.
Oui.
Ça me rendait aussi très malheureuse parce que j'étais en train de tomber amoureuse d'une manière que je veux plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amour romantique, la manière dont j'avais appris à être amoureuse et qui peut encore m'arriver un peu malgré moi, même si je combats ce type de mécanisme que je sais détecter en moi.
Oui.
Voilà, et ben le simple fait de me dire c'est vraiment quelque chose que je souhaite stopper ce mécanisme de tomber amoureuse. Je ne sais pas si je suis clair quand je le dis, mais... Et je suis en train de faire du mal à la personne en face de moi. Et tout d'un coup, ben, cette idée est plus heureuse dans mon esprit. Et du coup, j'arrive en fait, plutôt qu'à être malheureuse de tomber amoureuse, j'arrive à stopper ce mécanisme, à être heureuse de stopper le mécanisme et de stopper la relation au moins temporairement pour que les
choses... De l'avoir identifié, voilà, de prendre du recul, etc. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi est-ce que tu combats ce mécanisme ?
Oui, parce que alors moi je vais expliquer ce que ça veut dire tomber amoureuse pour moi.
Tout à fait.
Tel que je l'ai en fait appris moi-même par construction, et là c'est très personnel. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me rendais compte que tomber amoureuse, c'était ne plus penser qu'à l'autre, en pensant à l'autre, avoir un énorme sourire sur le visage. Au plus aucun souci de ma vie à ce moment-là, en fait, me semble avoir d'importance. Et j'ai remarqué qu'en fait, ce phénomène m'arrivait que je connaisse, même si je ne connaissais pas la personne, c'est-à-dire que je l'avais croisée dans une soirée, on avait discuté 3 minutes, etc. Donc déjà, maintenant, comme je suis pansexuel, je me suis rendu compte que moi, aujourd'hui, pour éveiller mon désir, j'ai besoin de connaître une personne assez, enfin, beaucoup, en fait, pour me rendre compte que voilà, il y a plein d'endroits où je l'aime et finalement le désir apparaît. Et donc là, j'ai l'impression que c'est un vrai désir qui a un sens. Or, ce désir que je pouvais avoir, c'était plus pour moi le aimer l'amour qu'aimer la personne que je connaissais pas forcément.
Oui.
Et du coup, j'en ai déduit que c'est mon cerveau qui fabriquait une sorte de fantasme de l'amour.
Oui, et de la personne.
Et finalement. De la personne. Oui. Et que tout ça n'était pas réellement basé sur du concret en lien avec la personne. Et que du coup, c'est un sentiment voilà, que je trouve pas juste, en fait, pas bien placé.
Et envahissant pour toi.
Oui, ouais. Oui. Et qui, en plus, a facilement tendance à faire du mal dans une relation si on n'est pas au même endroit, si on, voilà, enfin, pour plein de raisons, et selon comment l'autre est vis-à-vis de ce sentiment amoureux. Est-ce qu'il a envie de voir la personne souvent, pas souvent, enfin, très vite. Il peut y avoir toutes sortes de frustrations chez l'une, chez l'autre. Voilà. Donc, je préfère aujourd'hui aimer les personnes voilà, pour ce que je ressens chez elles. Et, alors,
et pour les avoir bien voilà, connues, en fait, ça. Une fois que tu les
voilà,
connais.
C'est ouais. Ça. Et puis, je sais en plus que c'est un ensemble de choses comme leur comportement que j'observe avec les autres dans la société, leur pensées, leurs idées, leur voilà. Et du coup, ben, tout ça, ça demande en fait du temps pour oui. Se rendre compte. Voilà.
Est-ce que militer fait partie des choses qui te rendent heureuse ?
Oui.
Ouais.
Oui. Oui.
Très bien. Est-ce que tu as un but ? Non, je crois que tu as déjà répondu. Est-ce que tu as un but dans la vie sur le... la sécurité que t'apporte le foyer que t'as créé. Est-ce que tu t'imagines vieille ? Comment est-ce que tu te vois vieille ?
Alors, en tout cas, je vais dire les choses comme ça. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça fait longtemps que je réfléchis à la mort. J'ai l'impression que pour moi, en tout cas, je vais passer ma vie à apprivoiser ma mort. J'ai une 50aine d'années, donc c'est une question auquel je pense depuis longtemps. Et à mon âge, elle a plus de, je sais pas, d'acuité.
Elle est presque tangible.
Voilà, ouais. Elle est plus concrète qu'elle l'était à 20 ans, 30 ans, etc. Et ce que je sais, c'est que j'ai envie de mourir entouré des gens que j'aime. Alors, deux gens que j'aime. J'ai pas envie d'être dépendante, ça c'est très personnel, donc j'ai ou de souffrir. Donc moi j'ai décidé, je sais pas si j'en aurai la force et le courage, mais en gros, si à un moment je suis trop malade ou je souffre trop, j'aimerais en fait provoquer ma mort, entouré des deux personnes que j'aime.
Oui.
J'ai pas envie de finir en EHPAD par exemple.
Oui. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est noté. Hein. on va s'approcher d'une conclusion. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, à des personnes trans plus jeunes, ou des conseils à donner de manière générale ?
Non, je crois que j'ai pas envie de donner de conseils.
Ok.
Comme ça, d'une manière générale. Mais... Ou peut-être Ouais. Alors c'est pas un conseil, mais je vais quand même dire quelque chose.
Mm-hmm.
Je pense que c'est véritablement en soi qu'on a les, qu'on trouve, qu'on peut chercher les ressources qui peuvent nous permettre de mieux vivre.
Ouais.
Bien sûr, tout le monde n'arrivera pas à les trouver. Bien sûr, on a besoin des autres, ou des livres, ou de l'art et de la culture, enfin de toutes sortes d'outils qu'on peut, ou de ressources qu'on peut, qu'il faut aller chercher du coup, pour nous accompagner. Mais il faut avant tout compter sur nous-mêmes. Voilà.
Ok. Mm. Donc le créer soi-même.
Oui.
Ok. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé voir ou savoir plus tôt dans ta vie ?
Ah oui, je pense que j'aurais aimé prendre conscience de ce que c'est cette norme du genre et des normes en général, oui. Parce que je l'ai compris très tard.
Mm-hmm.
Et c'est pas très intéressant de passer l'autre moitié de sa vie à déconstruire tout ce qu'on a construit pendant la première moitié. Franchement, si on pouvait pas être ça.
S'économiser ça. Ouais.
Mais en même temps, c'est l'expérience de vie la plus intéressante et enrichissante et transformatrice que j'ai vécue.
Ouais.
Et quelque part, ouais, je suis aussi contente de mon parcours.
Ça fait ce qui tu es, mon.
Voilà, exactement.
Qui que ce soit, puisque c'est pas clair.
Exactement. Yes.
Est-ce que tu veux donner les liens pour Festin, les œuvres auxquelles tu as participé, etc. Comment est-ce qu'on te trouve en ligne, si c'est trouvable?
Pour l'instant, à part notre adresse mail que je vais citer, Festin, accroché sans, donc F-E-2-S-T-I-N, @protonmail.com,
ouais.
On a un projet de site internet qui n'existe pas encore.
Mm-hmm.
On souhaite un jour mettre en tapant Festin, on trouvera un jour un site où il y aura toutes les infos, comment nous contacter, comment voir les films ou
vous aider, voilà, peut-être,
est-ce que aider, oui, ouais. Oui, ou nous rejoindre, enfin,
est-ce qu'on peut contribuer
Oui, Festin c'est un collectif ouvert, bien sûr, il faut se coopter, il faut se rencontrer, il faut se coopter, mais,
ouais.
Mais voilà, on peut nous rejoindre et en tout cas venir nous voir nous connaître.
D'accord. Et merci beaucoup, Holly.
Merci beaucoup, Jenna.
Au revoir.
Salut.
Merci, Holly, pour ta joie communicative, ton envie d'aider les autres et ta disponibilité. Ce petit bout de vacances avec toi a été très joyeux. Allez voir aussi les autres membres du collectif Nouvelles Radios Euphoriques sur le site nre.fm. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. N'oubliez pas de partager cet épisode et le podcast et les podcasts de NRE. Mettez des likes, des étoiles et des pouces là où vous pouvez, tout ça aidera la visibilité et l'acceptation de nos voix trans, une oreille à la fois. Ici ou ailleurs, merci d'écouter nos voix trans. À bientôt.